Allô, c'est Sylvain dans ta radio. Le Prix du Gros est fier de commanditer et surtout de féliciter Michel Villeneuve pour l'ensemble de sa carrière en Formule 1.
Catherine Le Matin. Voici Michel Villeneuve. Que l'amour ici se lève.
7h41, on parle de sport. Salut Michel.
Salut Marc-André. Je ne sais pas si tu es un adepte des dates historiques, mais aujourd'hui,
oui?
Il y a 44 ans, qu'est-ce qui se passait?
44 ans, laisse-moi faire le calcul, qui nous mène en 74.
Oui, je vais te dire que ça se passait à Kinshasa, au Zaïre.
Eh, bye-bye.
Rumble in the Jungle.
C'est George Foreman qui affrontait Mohamed Ali.
Absolument.
Bon, il y a quelqu'un qui m'a soufflé la réponse à l'oreille.
Ah, puis je connais ce quelqu'un-là.
On va l'appeler et Serge A.
Serge A. Tu sais que c'est la dernière victoire significative en carrière de Mohamed Ali contre George Foreman. Il lui avait passé le KO pour le compte de 8. Ce n'était pas un compte de 10, mais un compte de 8 au Zaïre, à Kinshasa. Et par la suite, c'est là que notre ami Mohamed Ali a commencé à décliner. Il a perdu 3 de ses 4 derniers combats, mais ça a été sa dernière victoire significative. Puis je regardais le film du combat, qui était dominé par George Foreman. Ali attendait, puis même au 8e round, avant d'y aller de cette combinaison qui avait expédié Foreman au tapis, je vais te dire une affaire, il était dans le coin, puis il se défendait, ne bougeait pas trop autour du ring. On s'est dit, c'est une stratégie pour épuiser George Foreman, puis à compter du 8e round, mais là, il va prendre l'ascendant. Mais on voyait déjà qu'il y avait des signes annonciateurs de la déchéance de Mohamed Ali dans le ring. C'était la plus grande figure sportive de tous les temps, Mohamed Ali.
Ouais.
Et de le voir, s'il avait pris sa retraite après ce combat-là, je ne sais pas si les effets de la maladie d'Alzheimer auraient été aussi fulgurants chez lui, mais c'est sûr que ses 4 derniers combats, il s'est fait maganer en pas pour rire. Et on dit toujours que il n'y a pas de bon temps pour prendre sa retraite, mais prends la dent lorsque tu es au sommet et surtout qu'il n'y avait pas besoin de ça, Mohamed Ali, qui était déjà célèbre partout à travers le monde.
Ouais, c'était un peu le combat de trop. Écoute.
Lui, ça n'a pas été le combat de trop, ça a été 4 combats de trop.
Ouais, c'est ça.
Puis c'est un gars qui était intelligent, puis soi-disant bien entouré, mais on s'aperçoit au fil des ans que on aurait dû lui conseiller de ne pas retourner dans le ring après le combat contre George Foreman.
Maintenant, parlons un peu de marketing, Michel. Il y a une entente entre la Ligue nationale de hockey et MGM.
Ouais. Écoute, on veut fournir des données au MGM International Resort pour être utilisées sur leur site de paris sportifs, parce que tu sais qu'il y a une décision de la Cour suprême qui affecte les paris sportifs sont maintenant valides aux États-Unis. Donc, on se dit, on va aller de l'avant. On va faire comme la NBA et on va aider les parieurs sportifs à se démêler et à prendre les bonnes décisions. Sauf que je me dis, quand tu prends une décision comme ça, tu le fais parce que ça va être payant.
Ouais.
C'est une décision d'affaires qu'on prend. On dit que l'industrie du pari sportif va valoir l'année prochaine 2,6 milliards de dollars aux États-Unis.
Oh.
C'est de l'argent maudit. Sauf que quelles sont les véritables retombées financières? La Ligue nationale n'a pas donné de chiffres. Mais je vais te comparer à ce qu'on a fait dans la NBA.
Oui.
On a signé une entente entre MGM et la NBA. On parle de 25 millions sur 3 ans. Sur des revenus de 2,6 milliards, c'est des peanuts.
Ben oui.
Mais si la NBA a signé pour 25 millions, je m'imagine que la Ligue nationale de hockey a peut-être obtenu le tiers de cette somme-là?
Ah oui, pas grand-chose, mais oui.
Peut-être 5 millions, parce que rappelle-toi du premier contrat de négociation, on avait pété de la broue, Bettman avait signé un contrat avec NBC. On ne touchait pas une maudite scène durant les 7 premières années. C'était les revenus de la télévision canadienne qu'on versait là, les plus de 400 millions de dollars par année, qui mettaient de l'argent dans les poches des clubs américains. Mais de la télévision américaine, la Ligue nationale ne retirait pas un sou noir. Puis là, on s'apprête d'ailleurs à renouveler les droits de télévision aux États-Unis. J'ai hâte de voir. C'est là qu'on va juger de la performance de Gary Bettman. C'est bien beau avoir amené des clubs de l'expansion puis leur faire payer 600 millions de dollars, je veux bien croire. mais j'ai hâte de voir si son produit va intéresser suffisamment des grands réseaux de télévision américains, ou peut-être ce sera YouTube, ce sera peut-être en streaming. J'ai hâte de voir quel sera l'argent qu'on va retirer de ça. Mais tu sais que les joueurs attendent ça parce que tous ces contrats-là leur rapportent 50 %. Si la Ligue nationale empoche 8 millions, ce sera 4 % qui ira aux joueurs.
Ouais.
Mais ce qui m'interpelle le plus, c'est que dans les données intellectuelles que la Ligue nationale de hockey va rendre disponibles à MGM, est-ce qu'on va connaître l'état réel des blessés? Parce que si la NFL a changé sa fusée d'épaule, c'est en raison du bilan de santé qu'on dresse de certains joueurs à l'aube des matchs de fin de semaine. Parce que s'il y a un ou deux joueurs qui ne sont pas disponibles et qui sont ennuyés par des blessures, il faut le communiquer et ça a un impact direct sur le choix des parieurs.
Bien, ça donc, fait penser à Austin Matthews, justement, avec les Leafs.
Oui. Est-ce que la Ligue nationale va changer ses données avec des blessures au haut ou au bas du corps pour faire plaisir aux parieurs?
Ouais.
J'ai bien hâte de voir ça.
Ça va être très intéressant.
Cas, on pète beaucoup de brou. On dira peut-être dans 20 ans qu'ils ont été visionnaires, mais pour le moment, il n'y a pas personne qui va s'enrichir avec ça, sauf le casino et ceux qui vont gagner, parce que s'il y en a qui gagnent, ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui vont perdre.
Oui, bien écoute, je le mentionnais dans les dernières secondes, avec la perte d'Austin Matthews du côté des Leafs, eux autres, ça va leur faire mal financièrement, mais aussi, j'ai hâte de voir comment ils vont réagir à cette perte-là.
Bon, Matthews a commencé la saison en force, tout comme les Leafs de Toronto. Sauf qu'au cours des... il avait ramassé tous ses points dans les 7 premiers matchs de la saison, alors qu'il a été blanchi dans les 4 derniers matchs. Il y a eu une espèce d'envolée extraordinaire des Leafs en début de saison. Là, ça s'est calmé. Il ne pouvait pas produire à ce rythme-là là, durant toute une année. Sauf que là, Matthews n'est pas là. Hier soir, on reçoit les Flames de Calgary qui battent les Leafs à maison 3-1. Oups, là, ça a refroidi un petit peu parce que on a beau avoir signé John Tavares, c'est là qu'on va voir si tout l'argent investi en Tavares va rapporter parce que avec Matthews, il y avait un petit peu plus de liberté sur la patinoire. Les meilleurs joueurs n'étaient pas contre lui, mais souvent contre Auston Matthews. Et là, Tavares se retrouve avec le poids de l'attaque qu'il partage avec Mitch Marner parce que durant ce temps-là, William Nylander, lui, est toujours chez lui en Europe.
Eh oui.
Tu sais que je me demande si ça, l'absence d'un mois d'Aston Matthews, avec la petite panne que connaît les Leafs présentement, est-ce que ça va accélérer les pourparlers avec Nylander? Il y a un écart, écoute, les Leafs lui offrent 6 millions. Lui va avoir 8 millions par année. Il n'est pas question pour lui d'accepter un contrat de transition. Comme c'est le cas pour plusieurs jeunes vedettes dans la Ligue nationale, on a vu la médecine qu'on a servie à Montréal. Tu ne peux pas signer un contrat à long terme. Il faut que tu fasses un contrat de transition entre ton contrat d'entrée de la Ligue nationale valide pour 3 ans. On veut que tu nous donnes un autre 3 ans. Donc, le gars commence à toucher sa véritable valeur à 25 ou 26 ans. Mais dans le cas du Lander, il dit non. Il dit, moi, là, je suis payé pour ce que je produis. Donc, je veux tout de suite, alors que je suis un des rouages les plus importants des Leafs de Toronto, être payé à ma juste valeur. Mais là, le propriétaire, le directeur général, le vice-président hockey disent, écoute, là, faut que tu donnes une chance à l'équipe, là, parce qu'avec tous ces jeunes joueurs-là, vous devez faire des sacrifices si on veut gagner ensemble la Coupe Stanley. Mais Brandon Shanahan, lorsqu'il était à Détroit, est-ce qu'il a fait, lui, des sacrifices? Est-ce qu'il a accepté une... pas une diminution de salaire, mais est-ce qu'il a accepté de ne pas être payé à sa juste valeur pour permettre aux autres d'être là? Non, monsieur. Et ce sont les arguments de Nylander et de son... Et ce sont les arguments, d'ailleurs, un point que devrait contester l'Association des joueurs. Et ça, c'est le secret le moins bien gardé dans la Ligue nationale. C'est évident qu'il y a collusion entre les propriétaires. Veux-tu m'expliquer pourquoi un gars comme William Nylander, qui a énormément de talent, n'a reçu aucune offre comme joueur autonome avec compensation?
Oui, une offre hostile.
Une offre hostile. Il n'y a personne qui lui a offert un contrat. Et il y a des équipes qui sont en panne offensivement qui aimeraient ça mettre la main sur un joueur de la qualité de William Nylander. Je pense que toutes les autres équipes de la Ligue nationale voudraient l'obtenir.
Ah, bien ça, c'est sûr.
Mais il n'y a personne qui lui fait d'offre.
Michel, le temps file. On va se garder les Browns de Cleveland pour demain. Ouais. Mais en une minute, dis-nous ce que tu penses d'André Bolduc.
Moi, j'ai lu avec intérêt hier un excellent article qui a été publié sur le site de rds.ca concernant les vues d'avenir d'André Bolduc. Il dit, moi là, j'aimerais à court terme être l'entraîneur-chef des Alouettes. Je regarde ça, je me dis, pour avoir du succès dans la Ligue canadienne, je pense qu'un entraîneur doit avoir joué, doit connaître la Ligue comme le fond de sa poche, doit connaître la composition, tu sais, lorsqu'on doit mixer l'alignement pour avoir un nombre de joueurs canadiens, un nombre de joueurs américains, tout ça. Puis il faut connaître vraiment l'essence même du football canadien. Et André Bolduc a amené sa vie là-dedans. Et même quand il a coaché avec le Vert et Or de Sherbrooke, ce sont les mêmes règles que le football canadien. Donc, il connaît les rouages. Je pense que c'est un connaisseur hors pair. C'est un amant du football. Et je me dis, pourquoi aller engager un Mike Sherman qui était dans son jardin à rien faire, qui était déconnecté du football depuis plusieurs années et qui n'y connaît rien, mais absolument rien de la Ligue canadienne? Si on veut donner un autre coup de barre, et je pense que si on faisait ça, il faudrait faire une pierre deux coups, c'est-à-dire amener un directeur général qui a des connaissances de la Ligue canadienne, qui a des connaissances également du football universitaire canadien, parce que c'est une pépinière de joueurs que les Alouettes n'ont pas vraiment exploité au cours des dernières années. Et je pense que cette année, c'est peut-être l'occasion rêvée pour les Alouettes de mettre la main sur Danny Machiocha, pas comme entraîneur-chef, comme directeur général de l'équipe, parce que je pense qu'il a fait son temps avec les Carabins de l'Université de Montréal. Et s'il pouvait quitter sur une note gagnante, permettre aux Carabins de vaincre le Rouge et Or dans un premier temps au Québec et d'aller mettre la main sur la Coupe Vanier, pourquoi pas donner un coup de barre, rapprocher la clientèle des francophones et d'arriver avec un duo Machiocha, directeur général, qui aurait un ascendant sur son coach André Bolduc, parce que ça a été son mentor, pourrait l'aider à faire sa transition. L'occasion, tu sais, il y a des occasions dans la vie qui passent, là. Le train passe pour les propriétaires de l'équipe. Pourquoi ne pas battre le fer pendant qu'il est chaud? Parce que c'est rare en maudit qu'un francophone dit « Moi, je vais être le coach des Alouettes.
Ouais. »
Mais on en a un. Why not peanut?
Michel, merci beaucoup. On se retrouve demain.
OK, bye-bye.
Merci, bye-bye. 7h40, Michel Villeneuve.